Bonjour, bienvenue sur RCI. Aujourd'hui, nous allons parler religion avec le padre Georges Nigoli, qu'on avait appris à connaître déjà lors d'une récente émission en 2021. Et aujourd'hui, nous sommes avec le père Nigoli pour parler de ses 15 ans de sacerdoce. Alors, on va voir un petit peu les moments qui ont marqué ces 15 ans. Padre, bonjour.
Bonjour à tous et merci de me recevoir pour cette émission, pour ce témoignage, pour ces 15 ans d'années de prêtrise.
Justement, comment est venue cette prêtrise, cette foi? Elle est venue comment et à quel âge?
Oh, bah alors comment ça? Il faudra demander au bon Dieu. Je ne sais pas trop bien comment c'est arrivé. T'es arrivé à quel âge? Je me suis posé sérieusement la question sur les coups de 18 ans. Je dirais quand il a fallu faire des choix professionnels ou se positionner un peu dans la vie. Je recherchais quelque chose qui puisse me rendre heureux en dehors de toutes les considérations un peu familiales, culturelles, professionnelles qui s'ouvraient à moi. Et ça a été toute une succession de rencontres, soit de prêtres, soit de laïcs. Le besoin de l'Église d'avoir des jeunes qui se mettent à son service pour annoncer l'Évangile, pour rejoindre les gens qui sont un peu à l'écart, qui sont un peu abandonnés, qui sont malades, etc. etc. C'est un peu tout cet appel-là, cet esprit de l'Évangile que je trouvais compatible avec ce que j'étais et ce que le Seigneur voulait de moi. Donc, à 18 ans, j'ai présenté pour la première fois mon projet de vie à un prêtre qui était responsable des vocations. Et puis ensuite, petit à petit, donc j'ai cheminé pendant 2 ans en discernement ici. Et puis, je suis parti en l'an 2000 sur le continent, à Avignon, pour vivre ces 7 années de séminaire.
Cette année de séminaire, c'est long et difficile?
Alors, c'est long quand on commence, oui, parce que forcément, on se demande si on va tenir bon, parce que bon, le séminaire est une vie un peu particulière dans la mesure où elle met ensemble des gens qui ont des horizons complètement différents, surtout quand on est un insulaire et qu'on quitte la Corse sur du long terme pour la première fois. Donc, on se confronte, entre guillemets, avec des personnes venues de loin, parfois. J'ai eu la chance de faire, pendant 7 années de séminaire, mon séminaire, mes études avec les Martiniquais, avec qui je gardais un lien très fort. Donc, il y avait cet esprit d'insularité que l'on retrouvait malgré une culture différente. Voilà, donc du coup... c'est pas très long, faut dire la vérité, c'est quand même pas très long, sauf que quand on commence, ben on est un bleu, et donc du coup on se dit bon, cette année ça va durer longtemps. Et puis en fait la formation est tellement bien articulée, elle est tellement riche en connaissances, en expériences de vie spirituelle, de vie humaine, que du coup ben les journées passent très très vite. On vit en communauté, on a les temps de loisirs, on a du travail, on a des stages, enfin on a un peu tout ça. Et on se retrouve très vite allongé par terre le jour de son ordination, se disant, eh bien voilà, finalement je ne les ai pas vus passer, quoi.
On a hâte d'être sur le terrain en fait.
Oui, oui, bien sûr, on a hâte d'être sur le terrain parce que tout ce que l'on apprend est de manière un peu générale et donc on a envie de l'exercer. Tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel, eh ben forcément, des fois on se pose la question, est-ce que ça va servir, est-ce que ça va pas servir? Et c'est là qu'on acquiert finalement l'idée d'une connaissance qui peut-être n'aura pas un côté pragmatique au sens où on ne parle pas tous les jours de la somme de saint Thomas avec les gens, mais ça nourrit finalement une quête de savoir, une curiosité intellectuelle et spirituelle, et donc du coup c'est enrichissant et de fait ça nous sert dans notre vie de tous les jours.
Un rappel, cette ordination, c'était où?
Alors j'ai été ordonné le 1er juillet 2007 en la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Bastia, avec deux de mes confrères, le père Paul-Antoine Barthes et le père Christophe Bocquet-Champ, qui sont dans le diocèse, dans le sud. Et voilà, nous étions un trio que l'on n'avait plus vu en termes d'ordination pour le diocèse depuis une trentaine d'années. Et que malheureusement, on attend toujours de voir arriver, parce que ce serait bon signe. On était un trio de collègues, de frères qui avions cheminé ensemble, même si on avait pris des chemins un peu différents, et qui nous retrouvions ce 1er juillet entourés de nos familles et de nombreux amis, de nombreux prêtres, pour ce temps important de l'ordination.
Alors, quel était après le cheminement avant d'arriver ici à Notre-Dame de Lourdes?
Alors après, donc, j'ai été envoyé 2 années en Balagne, puisque j'avais été ordonné diacre. On est ordonné diacre avant d'être ordonné prêtre, donc le 30 septembre 2006, en l'église Saint-Blaise de Calenzane. J'ai travaillé pendant 2 ans en Balagne. Et puis ensuite, l'évêque m'a demandé de revenir sur Bastia pour m'occuper de la pastorale des jeunes. De cette pastorale des jeunes, j'ai été renvoyé dans le Haut-Nébio parce qu'il manquait de prêtres et que j'étais jeune. Donc du coup, c'était plus facile. Et après, j'ai passé cette année en tant que curé de Saint-Florent, de l'unité paroissiale de Saint-Florent. Et là, depuis 3 ans maintenant, je suis ici à Notre-Dame-de-Lourdes.
C'est une lourde responsabilité, parce que Notre-Dame-de-Lourdes, c'est quand même une paroisse qui a été assez vaste.
Oui, alors c'est une lourde responsabilité au sens de l'innovation, parce que c'est vrai que c'est une paroisse qui vit bien. Les fidèles répondent présents à chacune des célébrations. On a eu plein de projets, plus ou moins nouveaux, compte tenu du contexte du Covid, donc on a dû mettre en place. C'est sûr que c'est mon ministère Notre-Dame-de-Lourdes a commencé de manière un peu particulière, parce que quand on arrive en septembre et qu'au mois de mars, tout le monde est confiné, c'est difficile de faire véritablement connaissance avec ses paroissiens. On ne peut plus leur serrer la main, on ne peut plus les embrasser. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, avec le Covid qui passe, même si l'ombre d'un retour est toujours autour de nous, mais on nous a permis de tisser des liens. On a créé de véritables amitiés. Il y a une familiarité. Ils ont appris à me connaître. J'ai appris à les connaître aussi. Et de fait, on arrive à travailler ensemble.
Entre guillemets, vous avez donné un petit coup de jeune à la paroisse ?
Ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait le demander aux paroissiens. Chaque prêtre apporte un peu ce qu'il est véritablement. On s'inscrit dans une histoire, donc il y a des traditions qui sont propres à la paroisse. Et après, une fois qu'on respecte ces traditions-là, il y a tout un champ très large d'innovation que l'on peut développer et pour lequel, d'ailleurs, la paroisse et les paroissiens répondent présents et même des personnes de l'extérieur. Parce que, de fait, je crois qu'elle peut être signe de nouveauté, d'innovation. Et ça peut être intéressant pour un prêtre, un curé, de pouvoir innover dans la manière d'annoncer l'Évangile avec un peuple qui répond et qui se fait porte-parole ensuite là où il se trouve de cet Évangile qu'il a reçu, je vous dis, avec des manières vraiment très différentes. Pas forcément meilleures, il y a des choses qui peut-être ne tiendront pas, d'autres qui tiendront dans le temps. Mais c'est un peu comme toutes les autres traditions. Il faut bien qu'elles soient innovantes à un moment donné de l'histoire. Et après, elles s'enracinent dans un rythme et dans un cycle.
Alors, c'est une paroisse qui bouge, puisque juste avant le début de cette émission, vous me disiez qu'en ce moment, il y avait beaucoup de baptêmes. Donc, c'est un signe fort quand même.
Oui, alors c'est vrai que cette année, on a eu la grâce d'avoir vécu déjà et d'attendre de nombreux baptêmes. À la nuit de Pâques, nous avons baptisé 13 adultes donc, qui ont reçu les sacrements d'initiation, qui ont cheminé pendant plusieurs mois ensemble. Là, derrière, beaucoup de parents téléphonent pour cet été, pour le mois de septembre, octobre, pour les baptêmes. C'est beau, c'est un bon signe, hein, un bon signe d'accueil, un bon signe de foi, de fraternité, d'humanité tout simplement, d'accueil de la paroisse. Parce que de fait, les baptêmes, c'est quand même l'un des beaux sacrements de la vie chrétienne où on donne la vie d'enfant de Dieu à ses enfants ou à ses adultes. On a un deuxième groupe de catéchumènes d'ailleurs qui se prépare à être baptisé la nuit de Pâques prochain. Donc voilà, il y a de beaux signes d'espérance qui se mettent en place et qui réjouissent forcément le cœur d'un pasteur.
Alors, ce vendredi soir, vous fêtez donc vos 15 ans de sacerdoce. Quel bilan vous faites de ces 15 ans, de ces premières 15 premières années ?
Alors, si je dois faire un bilan très personnel, je me dis que l'appel que le Seigneur me donne est un appel qui est assez déboussolant. Déboussolant parce que de fait, un peu comme on le voit dans l'Évangile, quand il appelle les gens à le suivre, c'est lui qui est un peu le maître du cheminement, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous met sur des terrains que l'on n'aurait jamais envisagés, jamais vus. Bon, moi je vois quand j'ai été très jeune aumônier de prison, me retrouver jeune prêtre dans un milieu assez particulier qu'est le milieu carcéral a été pour moi quelque chose de super fructueux, de super intéressant en humanité, en annonce de l'Évangile dans des milieux qui ne sont pas forcément très libres de gestes, d'actions. Et pourtant, ça a été pour moi une très belle expérience qui me sert encore dans ma vie de prêtre aujourd'hui. J'ai vécu de très très belles rencontres. Des personnes qui se sont mises à la suite du Christ à travers une discussion, à travers un moment de partage ensemble. on a vécu des moments aussi difficiles, puisqu'on accompagne aussi des personnes qui sont dans le deuil et parfois dans des catastrophes humaines importantes. Et malgré tout, voilà, on essaye d'être signe d'une présence d'un Dieu qui parfois se fait silencieux, ou en tout cas dont on perçoit le silence, mais n'empêche qu'il agit quand même dans le cœur de ces personnes, et nous on est là pour témoigner de notre espérance. Il y a des moments, je repense là maintenant en vous parlant à ces moments où je suis monté en réanimation Covid à l'époque des confinements pour accompagner des personnes qui malheureusement ont quitté ce monde à la suite de cette maladie, alors que personne ne pouvait rentrer, les familles n'avaient pas accès, bon, on était la seule visite permise, même ne serait-ce qu'un court temps, mais pour manifester notre espérance face à quelqu'un qui lutte pour rester en vie. Personnes qui sont sorties vivantes, d'ailleurs, heureusement, hein, mais d'autres ont quitté ce monde. C'est de belles rencontres. Voilà, moi, ce que je retiens, c'est souvent ce regard dans les yeux, cette lumière qui, à un moment donné, s'éclaire parce que beaucoup portent de véritables angoisses, de véritables questionnements, et que parfois, de la discussion, jaillit la lumière. Et donc, je crois que notre vie de prêtre, c'est d'être à ces carrefours entre une humanité qui se cherche, un Dieu qui propose, et nous qui sommes là pour mettre ensemble ces deux réalités-là, avec nos fragilités, avec ce que nous sommes, bien évidemment, mais malgré tout, j'essaye de vivre mon ministère de prêtre de cette manière-là, en essayant de reconnecter ce que la vie, le monde, les fausses idées ont pu déconnecter, parce que je crois sincèrement que cette humanité a soif de Dieu, elle est à la recherche de Dieu. Dieu a soif de l'humanité et attend cette humanité-là. Donc le rôle du prêtre, véritablement, c'est d'être un connecteur entre ces deux réalités-là, aussi difficile que cela puisse paraître dans certaines circonstances.
Comment vous voyez la suite ?
Eh bien, j'espère que fêter mes 30 ans d'ordination avec toujours ce désir de vivre véritablement cette mission-là, je trouve que c'est une vie qui est capable de rendre heureux. Et c'est ça finalement que j'aimerais dire aux jeunes, parce que là aussi, pareil, on a dans la vision du prêtre une vision peut-être un peu austère, brimée, pas le droit de se marier, pas le droit d'avoir des enfants, pas le droit de ci, pas le droit de là. C'est vrai qu'il y a une manière de vivre qui nous est propre et qui nous est particulière. Après, à côté de ça, on a le droit à être heureux, on a le droit de vivre heureux et joyeux. Et je dirais presque que c'est même un devoir, puisque si nous vivons de l'Évangile et de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de la résurrection du Christ, eh bien c'est cette joie de la résurrection du Christ que l'on apporte au monde. Et je demande au Seigneur de me garder et de garder au fond de mon cœur cette joie de cette victoire de la vie sur la mort pour pouvoir la partager dans les années qui viennent avec ceux que la Providence mettra sur mon chemin.
Partager, ce ne sera pas forcément à Notre-Dame de Lourdes, parce que les prêtres, ça bouge.
Ah ben, ce ne sera peut-être pas à Notre-Dame de Lourdes. Alors, il y a la vie paroissiale qui est, en l'état actuel des choses, ma mission principale. Après, j'essaye d'être témoin de mon espérance là où je suis. Ça se passe parfois dans un rayon d'un centre commercial, ça se passe au café, ça se passe dans des journées des fêtes de baptême dans lesquelles on est invité, ça se passe à des endroits incongrus. C'est pour ça que je dis, je crois vraiment que le Seigneur a beaucoup, beaucoup d'humour. Je veux dire, aujourd'hui, les personnes qui viennent frapper à la porte de la sacristie en se disant « j'ai une question existentielle, je voudrais vous la partager », et on ne les trouve plus. Je veux dire, c'est véritablement ce que le pape appelle les périphéries. Il faut sortir de nos bâtiments, même s'il faut quand même garder une présence, mais il faut sortir de nos bâtiments parce que le monde ne sait plus où taper à la porte. Et d'ailleurs, la porte de la sacristie ne sert plus à grand-chose. Aujourd'hui, on frappe plus à la porte des réseaux sociaux qu'à la porte du bâtiment. Alors c'est sûr, il faut garder une présence, il faut être attentif, il faut écouter ce que le peuple a à nous dire. Je repense à plein de personnes, et s'ils écoutent l'émission, ils se reconnaîtront. Ils me disent, vous savez, moi je suis fâché avec votre patron, et c'est pour moi l'occasion de dire, eh ben, allez, on y va, on va discuter, on va voir ce qui a blessé, ce qui a dérangé, etc. Et puis, je ne dis pas qu'on arrive toujours à défaire les nœuds, mais si on arrive à présenter le visage évangélique de Dieu qui est révélé par Jésus-Christ et que la tradition de l'Église porte, on est parfois des agents de réconciliation plus forts que ceux qui apporte un visage de Dieu qui n'est même pas celui de l'Évangile, qui est un Dieu que l'on s'est fabriqué parce qu'on a besoin de réponses à des questions, et donc du coup on se crée nous-mêmes nos propres réponses, et parfois elles sont quand même un peu maladroites, et on n'est pas forcément de grands théologiens, même populaires, on n'est pas de grands théologiens, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que les gens, quand ils arrivent en disant « moi j'ai un problème avec Dieu », eh bien on s'aperçoit très souvent que dans la définition qu'ils ont de Dieu, c'est tout sauf la définition qui est dans l'Évangile.
Padre, merci pour cet entretien. On rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches avec le Père Paolo pour...
Dieu vous parle sur RCI, avec ce partage de la parole de Dieu que nous essayons de vous donner chaque dimanche. Petit partage. Alors, petit partage qui est censé vous inviter à venir écouter l'ensemble, puisque là, on ne partage que l'Évangile, ce qui est déjà beaucoup. Mais venez écouter la parole de Dieu, venez vous offrir le luxe d'écouter une parole qui nous vient de plus loin et qui réconforte bien souvent les cœurs qui sont blessés.